Cet épisode est réalisé grâce à la complicité de Plendy by Vinci Construction. Plendy, vous les connaissez, ils sont de vrais ambassadeurs de l'artisanat d'art et des métiers rares, que ce soit pour des créations avec des ateliers de bronziers, des sculpteurs de pierre, de plumassiers et bien d'autres. En fait, Plendy participe au rayonnement de l'ensemble des savoir-faire complètement incroyables qu'on a la chance d'avoir encore en France pour des projets d'hôtels, des palaces, des résidences privées, mais aussi des boutiques historiques parisiennes. Et si vous aussi, architecte, décorateur, vous partagez cet amour de l'artisanat, des liens peuvent naître. Et d'ailleurs, je suis toujours hyper heureuse quand vous m'annoncez que des collaborations entre vous commencent. C'est assez dingue tout ce qui se passe grâce à ce podcast et j'espère que c'est que le début. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ici, vous découvrirez les univers de mes invités d'une manière hyper intimiste. On parle de leur travail, de ce qui les anime, on se questionne sur cette notion du beau, qu'est-ce que ça signifie d'imaginer, de créer de beaux objets, de beaux intérieurs aujourd'hui, avec les challenges qui sont les nôtres, notamment environnementaux. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, alors bienvenue. Et venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde. Je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr dans la rubrique Elle décoration et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde. Je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr dans la rubrique Elle décoration et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonjour Romain.
Bonjour Hélène.
Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent, pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous êtes en direct de Bretagne, et plus précisément de la Trinité-sur-Mer, et mon invité du jour est un navigateur, un skipper engagé. Romain, t'es un vrai passionné, t'as voulu te servir de ta passion pour la voile pour ouvrir la voie vers d'autres pratiques dans ce domaine très spécifique et aussi un peu fermé de la voile de haut niveau, alors qui fait briller les yeux de nombreux amateurs, curieux et autres rêveurs à travers de nombreuses courses mythiques de voile. Et donc toi, en fait, la voile, tu la pratiques donc à haut niveau et tu questionnes cette folle frénésie à la performance où, en fait, les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies sont sans cesse créées. Pour toi, tout ça ne peut pas aller sans engagement, sans remettre du sens, du bon sens dans le choix des matériaux, des objets, et aussi le choix de tes partenaires, en fait, un peu tout. Donc avec Use It Again, tu interpelles et tu poses un peu la question aux militants du progrès et de la technologie. Est-ce que finalement, c'est pas complètement décorrélé des enjeux pour le climat qu'on a aujourd'hui et desquels il faudrait plutôt parler à travers toutes ces manifestations aussi médiatisées? Donc toi, tu veux convaincre par l'exemple de faire autrement et que ça marche et que c'est performant, en fait, et on va en parler. Donc c'est pour ça que tu as créé avec ta femme le projet donc Use It Again que je citais juste à l'instant. Tu vas nous expliquer tout ça dans le détail, mais avant j'aimerais donc préciser qu'on enregistre cet épisode dans la petite capsule de ton bateau. Donc déjà merci beaucoup de nous recevoir à bord, c'est une première dans l'histoire de Où est le beau, un enregistrement de podcast sur un bateau.
La capsule ne va pas s'envoler, t'inquiète pas.
On dit une capsule ou pas?
On dit plutôt un cockpit.
On dit plutôt un cockpit, ok, d'accord. Et donc j'espère que de l'autre côté de vos écouteurs, vous sentirez aussi ce bol d'air frais, cette magie un peu de l'univers de la mer. Je vous mettrai des photos sur Instagram, vous pourrez découvrir le bateau de Romain en cliquant sur les liens aussi que je mettrai dans les notes de cet épisode. Alors Romain, si tu le veux bien, pour commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire un peu depuis quand toi t'as fait cette prise de conscience écologique et quel a été le déclic pour que tu décides de faire de ta passion pour la voile le porte-drapeau de ton engagement ?
Alors effectivement, c'est un long cheminement qui s'est fait avec le temps, au fil des expériences. Il y a trois événements qui m'ont marqué. Je pense que le premier, j'étais étudiant en commerce. J'ai fait un long stage chez Patagonia Europe, qui à l'époque avait son bureau à Paris. Et j'ai rencontré le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qui est un mythique entrepreneur. Et cette personne m'a vraiment impressionné, m'a bluffé. Et ça a été une expérience importante parce qu'elle m'a fait comprendre qu'on pouvait faire du business, vendre des vêtements, des beaux vêtements, en ayant un engagement total. Donc, c'était vraiment la réconciliation, ou la conciliation plutôt, du business avec l'environnement, ce qui est l'objet même de cette marque. Donc ça, on était dans les années déjà 97. J'étais très jeune, bien sûr, à cette époque-là. Et après, en 2000, deuxième événement, quand je m'entraînais pour la solitaire du Figaro et le championnat de France de course au large en solitaire, j'étais donc pas loin d'ici, dans la baie, en baie de Quiberon. Et à cette époque-là, le pétrolier Erika s'est échoué au large de la Bretagne et a déversé des millions de tonnes de fioul sur les côtes de Belle-Île-en-Mer et de la Bretagne, de la Vendée. Et quand je naviguais, je recevais des boulettes de pétrole sur le pont de mon bateau. Donc, ce n'était pas des flots de pétrole, mais ça m'est arrivé, ça a souillé mes voiles. Et je trouvais ça hallucinant et effectivement avoir ce contraste de moi qui naviguais pour mon plaisir, mais c'était quand même, il y a un engagement sportif quand même. C'est du sport de haut niveau. Et cette nature, cet océan magnifique qui était souillé parce qu'un cargo était défectueux et s'était broyé à l'occasion d'une tempête, c'était assez dramatique. Et puis enfin, le troisième événement, plus tard, on était en 2015-2016, on est parti s'installer à Shanghai, en Chine, donc. Mmh. Shanghai, la ville sur la mer. Donc on quittait la Trinité-sur-Mer, 800 habitants à l'année, pour la ville sur la mer en Chine, qui doit avoir quasiment 20 millions d'habitants. Joli port de pêche. Et là, en fait, on a vécu, on n'était pas obligé de partir, bien sûr, personne ne nous a forcé. Ouais, mais voilà, on a adoré notre vie là-bas, mais on a aussi vécu avec cette pollution au quotidien qui impacte notre vie de tous les jours, qui fait qu'on a des purificateurs d'air à la maison, qu'on n'ouvre pas forcément les fenêtres, que les activités des enfants en extérieur sont annulées, etc. Donc ça a été quelque chose d'assez incroyable.
Ouais, parce que là, tu vivais vraiment un truc où ça avait un impact fort.
C'est dingue, quoi. Et effectivement, là-bas, des amis nous ont dit « Non, mais il faut absolument acheter des purificateurs d'air. Tu verras, quand l'air est vraiment très pollué et que tu rentres chez toi, tu as l'impression que c'est les Alpes suisses. » Donc c'est quand même assez dingue et c'est la réalité. Et effectivement, tout le sens de l'usine du monde qui est la Chine, voilà, c'est là-bas que ça se passe. On comprend ce que ça veut dire quand on a du Made in China sous nos objets. Bah, faut comprendre que derrière, c'est effectivement la réalité, c'est que la c'est production, fabriquer là-bas. Voilà.
Ouais. Donc on pollue en fait nous, aux Français, quelque part.
Et oui, nous avons tous notre responsabilité.
On externalise un petit peu notre truc. Ouais. Et après, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi dans l'imaginaire collectif, tu vois, la voile, c'est un truc. Bah, je sais pas, tu vois, c'est la nature, c'est clean, c'est voilà. Et pourtant, les bateaux sont vachement techniques, etc. Les matériaux sont pas forcément super éco-responsables ou en tout cas super green. Pour poser un peu, tu vois, parce qu'on n'est pas du tout spécialiste ici dans ce podcast de cet univers, mais que tu nous expliques un petit peu, tu vois.
Alors, en fait, effectivement, nos bateaux, nos superbes trimarans, puisqu'on parle de ça en l'occurrence, on va y revenir, vont vite, sont propulsés par la force du vent uniquement et sont magnifiques sur l'eau. Et effectivement, quand on navigue, on a uniquement le vent, nos voiles et nos coques. Donc, c'est superbe à voir, c'est superbe à naviguer. Mmh. C'est très beau. Et c'est vraiment quelque chose qui est paradoxal. Puisque pour construire ces bateaux-là, voilà, un bateau qui fait 9 tonnes comme le mien, ce sont effectivement des tonnes de carbone, puisque tout ces voilà, bateaux ils foutent le carbone. C'est pas beaucoup de plastique, un petit peu, mais beaucoup de chimie et de fibres, puisque les écoutes qui sont les ficelles hein, à bord d'un bateau, il y en a énormément. Mmh. Ce sont de la chimie, c'est pur produit, voilà, ça sort des grands chimistes. Puis on assemble ces fibres. Et pareil pour les voiles. Donc, c'est des superpositions de voiles, c'est des superpositions de fibres, des couches, etc. Donc, une voile de 160 mètres carrés comme ma grand voile, qui n'est pas très grande pour une voile de bateau, eh ben, c'est voilà, 4 couches de fibres assemblées les unes aux autres. Et c'est vraiment... c'est pas beau à construire, c'est clair. Donc, ça vient... C'est essentiellement issu de la pétrochimie, bien sûr. Et on ne peut pas les recycler aujourd'hui. Donc, on parle de recyclage pur, on ne sait pas le faire. Donc, je commence à trouver des solutions pour les écoutes, ces ficelles, selon les matériaux utilisés, parce que ce n'est pas tous les mêmes matériaux sur toutes ces ficelles. Mais c'est compliqué, c'est un long chemin.
Et donc, en fait, toi, du coup, tu t'es dit, OK, enfin, ça, c'est ta passion. Donc, en fait, tu t'es dit, je vais continuer à naviguer parce que voilà. Mais on va essayer d'augmenter un peu la durée de vie, vu qu'on ne peut pas recycler à proprement parler. Tu t'es dit, il y a toute une aventure autour de... Bah, d'une économie un peu circulaire, en tout cas de réemploi, qui va pouvoir avoir lieu, que tu avais envie de
mener. Exactement. En fait, le sujet, il est venu assez naturellement. Donc, on était l'année où j'étais en Chine, j'ai rencontré l'ancien propriétaire de mon bateau aujourd'hui, qui était le trimaran construit par et pour Hélène MacArthur en 2003. Ouais. Elle a battu ce record autour du monde en solitaire en 2005. Okay. Ce bateau est passé entre d'autres mains, d'un autre team professionnel, puis cette personne a acheté. Et il était abandonné depuis 6 ans à peu près à Brest, sur un quai, dans un état vraiment lamentable. Quand je dis abandonné, pas du tout entretenu, rien, tout était à bord. posés sur le pont, les écoutes, le matériel, aucun entretien, donc ils faisaient vraiment peine à voir. Je savais qu'il était dans cet état-là et je me disais qu'il fallait absolument que ce bateau navigue parce que c'était un bateau magnifique, qui a un gros potentiel de vitesse, qui n'est pas complètement has-been, c'est pas un bateau des années 60 ou autre. Et c'est un bateau très bien construit, qui a été très bien construit en Australie, par un chantier très réputé. Et donc, en fait, un bateau comme ça, c'est un peu comme une vieille maison. C'est-à-dire que, c'est un bateau qui a du charme, qui a plein d'avantages, qui est durable, comme une vieille maison en pierre, il faut imaginer ça, mais qui a besoin d'un gros lifting. Et donc, l'objectif, c'était de se dire, ce bateau ne va pas pouvoir être compétitif en vitesse pure par rapport aux derniers bateaux, aux derniers trimarans qui ont des foils, qui sont beaucoup plus grands, etc., parce que voilà, ils ont 10 ans, 15 ans de recherche de R&D derrière eux. Mais c'est vraiment un bateau qui mérite de renaviguer. On ne peut pas le laisser pourrir comme ça. Mmh. Et donc, on s'est dit, pour qu'il y ait le plus de sens, on va utiliser des matériaux existants autant que possible pour pouvoir le remettre au top niveau et aussi qu'il y ait l'aspect sécurité. Ça, c'est très important. Parce que quand on navigue en solitaire sur ces bateaux-là, il ne s'agit pas de partir avec des bouts de ficelle qui risquent de casser.
Bah ouais, non. Est-ce que aussi, avant qu'on détaille tout ça, tu peux nous décrire ? Il est immense, en fait.
Ouais, il fait 23 mètres sur 16. Alors, on s'y habitue à cette... Mais effectivement, ce n'est pas une taille commune. Hein. Bah ça, oui, c'est clair. Ça ne se trouve pas dans tous les ports. Mais je suis le petit bateau de cette classe qu'on appelle le trimaran ultime, qui sont les plus gros trimarans de course au monde.
D'accord.
Je suis le petit bateau. Les autres font plutôt 10 mètres de plus quasiment que le mien. Mais on est sur la route du Rhum, il y a 2 ans, on n'était que 6. Ouais. On n'est pas tellement plus aujourd'hui, plutôt moins d'ailleurs. Et surtout, c'est un bateau en fait, qui est assez lourd dans les manœuvres. En fait. C'est comme il est assez ancien et que je n'ai rien voulu changer pour ne pas consommer. Je ne voulais pas changer, par exemple, une poulie par une poulie plus légère, plus performante, sous prétexte justement qu'elle était plus légère, plus performante. Je voulais la garder si elle était en état de fonctionner. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tout le bateau est comme ça. Donc, c'est des systèmes, comme on dit, de l'époque, du matériel de l'époque, qui a été remis au goût du jour, vérifié déjà. Puis, quand il fallait, on a changé des pièces détachées, on va dire ça comme ça, des petites pièces, pour que le système global fonctionne. Mais tout est resté comme ça. On n'est pas allé chercher le top du top aujourd'hui, plus léger, plus facile et tout. Donc, ça fait que ce bateau, dans les manœuvres, est très exigeant physiquement.
Ouais. Donc, en fait, là, l'idée, c'est non seulement quand tu commences... Donc, ce projet s'appelle Use It Again. Je comprends bien du coup le nom très explicite. Et donc tu te dis, en fait, on va aller sourcer les matériaux ou les objets, enfin un peu tout ce que tu vas avoir besoin, enfin vous allez avoir besoin pour passer ce bateau d'épave à un truc qui va naviguer et puis naviguer non pas pour le dimanche mais bien reprendre la compétition.
Exactement. En fait, comme j'ai cette expérience de la voile au niveau mondial depuis 25 ans, en fait, j'ai fait des courses à droite à gauche et je sais qu'il y a beaucoup de matériel non utilisé, qui dort quelque part. Exactement. Ouais. Il y a des teams de courses professionnels, il y a des propriétaires de yachts qui se font changer par leur équipage, leur boat captain de voile, alors que la voile est en très bon état, mais pour des histoires d'esthétique, de performance, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de matériel abandonné qui pourrait avoir une deuxième, troisième vie. Et donc, tout le sujet est là. C'est d'aller chercher ce matériel, alerter les gens en général sur le fait qu'il y a beaucoup de matériel qui dort, il y a beaucoup de produits, d'éléments produits dans le monde qui ne sont pas utilisés. Ouais, ça, c'est une réalité.
Et puis, qui ne sont pas des déchets, en fait.
Et exactement, qui ne sont pas encore des déchets. Ouais. Parce qu'avant d'être un déchet, il faut être allé au bout de la ressource et se dire que cet élément ne peut plus être utilisé. Ouais. Si on prend l'exemple des voiles, j'ai utilisé 3 voiles qui appartenaient à un autre team professionnel qui me les a aimablement légués, mais qui ne les servaient plus du tout, qui étaient vraiment sur leur étagère, comme on dit, dans le hangar. Et ils avaient changé de bateau, ça ne leur servait plus. Et j'ai fait la route du Rhum avec ces voiles-là.
Mais donc, du coup, ça nécessite aussi potentiellement d'adapter.
Exactement. Sur ces voiles-là, je n'ai pas eu trop de boulot. Par contre, sur 2 autres voiles, j'ai eu plus de boulot. Il fallait les retailler. Donc, en fait, sur une voile, il y a l'aspect dimension et il y a l'aspect structure de la voile qui est en fait la résistance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la voile fasse 250 mètres carrés comme j'en ai besoin, mais aussi en termes de grammage. Donc là, les gens comprendront. Il faut qu'elle soit assez résistante pour mon bateau. par rapport au vent et l'utilisation que je vais avoir. Okay. Donc, c'est pas évident de trouver hein, ce matériel. Ça se trouve pas comme ça en Bretagne, au coin de la rue. Donc, effectivement, il a fallu sourcer.
Mais donc, tu as sourcé des matériaux, mais aussi, du coup, potentiellement des gens qui t'ont aidé à des artisans ou, enfin, je sais pas, qui t'ont aidé à les, bah, à les mettre, tu vois,
ouais, mesure, enfin, je sais pas. Après, effectivement, si on prend l'exemple des voiles, là, je m'adresse à mon voilier, voilà, le maître voilier qui va prendre la voile et je lui dis, bah, voilà, maintenant, tu prends le plan de voilure du bateau et tu l'adaptes, tu fais en sorte que... Voilà.
Mais donc, c'est potentiellement pas des demandes qu'ils ont l'habitude de traiter tous les jours aussi.
Exactement, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour eux versus je te vends une nouvelle voile.
Ouais,
ça, c'est important, c'est un élément important dans l'économie circulaire. Voilà, c'est un autre exercice de style, bien sûr, qui fait appel à la réflexion, à la science de l'architecture navale, du design de voile et autres. Mais après, c'est aussi une relation qu'on noue avec son fournisseur.
Ben, c'est clair.
Et j'en suis reconnaissant parce que voilà, il y a des très belles voiles qui ont été faites sur ce bateau. Ma bateau navigue bien et avec une belle performance.
Ouais. Et d'autres exemples aussi, parce que là, on voyait sur ton... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sur le petit trampoline.
Voilà, ça, le trampoline, exactement, le filet de pêche. C'est du filet de pêche,
c'est
trampoline.
Du filet de pêche. Okay.
Le même matériau, le polypropylène, qui se recycle très, très bien.
OK. Et bien, donc, on voit des panneaux solaires, en fait. Tu as 6 panneaux solaires. Parce qu'en fait, explique-nous comment tu gères l'énergie. Parce qu'en fait, quand tu pars, quand tu vas naviguer, en fait, tu es vraiment tout seul. Donc, il faut que tu sois autonome. Parce que les courses durent un peu longtemps, enfin plusieurs semaines.
Exactement, ouais. Il faut être autonome en énergie, donc il faut se fabriquer son énergie. Donc à la base, il y avait le moteur avec un générateur, hein, classiquement comme dans tout moteur thermique, qui peut produire de l'électricité, mais l'idée c'est de produire de l'énergie verte, comme on dit, et de mettre aussi en avant le mix énergétique qu'on retrouve à terre dans l'industrie en général. Et donc, j'utilise l'éolien. Donc, j'ai une éolienne, pareil, reconditionnée, des panneaux solaires et un hydrogénérateur. Et à chaque fois, j'ai demandé aux fabricants, non pas de matériel neuf, mais du matériel reconditionné, donc qu'ils me fassent des panneaux solaires qui sont revenus en SAV, qu'il fallait changer des petites pièces, des petites choses. Donc, si on regarde activement, ils sont un petit peu différents. Exactement.
Ouais.
Voilà, donc pour les panneaux solaires...
Ils fonctionnent super
bien. Ah oui, voilà, exactement. Voilà. Donc c'est pour aussi montrer que le reconditionné, ça fonctionne bien. Si c'est passé entre les mains de professionnels, il n'y a aucun problème.
Ouais.
Donc c'est ça pour ces trois éléments. Ça me permet d'être autonome selon les conditions, qu'il y ait beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Et si l'un est défectueux, l'autre prend le relais, etc. Donc ça m'évite d'allumer mon moteur.
Ouais. Et je crois que tout à l'heure, tu me disais que ces panneaux, ils étaient installés sur un tissu qui a été recyclé aussi, enfin réutilisé.
Alors oui, exactement. Ils sont posés sur une bâche et ce tissu est en fait du tissu d'airbag.
Ouais.
Et j'ai sourcé un fabricant qui fabrique toutes sortes de tissus dans la région lyonnaise et qui envoyait à l'enfouissement énormément, mais des centaines et des centaines de mètres carrés de tissus parce qu'il y avait un micro défaut sur un rouleau produit. Donc
ouais.
C'est ce qui est complètement aberrant et hallucinant. Mais effectivement, si on parle de tissu d'airbag, il faut que ce soit irréprochable, bien sûr, pour l'industrie automobile. Et ils ne peuvent pas accepter un défaut. Donc, tout part et lui n'a pas de débouché, en fait, ce fabricant.
Ouais. Okay.
Donc, moi, je lui ai dit, mais c'est un tissu qui a l'air très bien. Et effectivement, il est très résistant. Mes panneaux sont dessus. Ils sont soumis à rude épreuve. Ils prennent les vagues par le bas du bateau, par le trampoline, ouais. Par-dessous. Ils sont exposés au soleil toute l'année. Donc, ils sont résistants aux UV, etc. Et c'est vraiment un super tissu. Donc, voilà, c'est une petite utilisation. Mais ça, c'est aussi pour montrer qu'il faut aller chercher des idées dans d'autres industries. Et
ouais,
ça, c'est
ça.
Vraiment essentiel.
Ouais. Ce truc de l'énergie, ça nous fait quand même se poser cette question de nous dire... Bah, on ne se rend plus compte, en fait, aujourd'hui, et toi, du coup, en étant en plein milieu de l'âme d'océan dans tes courses, qu'en fait, l'énergie, on en a besoin pour faire absolument tout, enfin, vraiment beaucoup de choses dans notre journée, et qu'aujourd'hui, elle est à portée de main, et qu'on ne se pose même pas la question d'allumer un truc, et on ne se demande même pas d'où ça vient, enfin, voilà. Mais sauf que toi, du coup, c'était tout un système à penser en amont, et aujourd'hui, du coup, même si tu as encore un moteur, les trois, ton mix là dont tu nous parlais, te permet d'être normalement complètement autonome.
Exactement. Effectivement, j'ai pas mal d'éléments à alimenter, d'appareils à alimenter à bord. Le pilote automatique, l'ordinateur, la centrale électronique qui me donne les infos sur le vent, etc. Le téléphone satellite qui est très consommateur. Et en fait, faut que j'alimente ces éléments, ces instruments. Et on s'aperçoit que elle est très rare, cette énergie en mer. Effectivement, il faut la produire. Et si j'en ai plus, ça veut dire que je ne peux plus communiquer avec la Terre,
ouais.
Je ne peux plus barrer mon bateau grâce au pilote automatique, donc je suis obligé d'être à la barre 24 heures sur 24. donc ça ne va pas durer longtemps, puisqu'un navigateur solitaire, son meilleur ami, c'est le pilote automatique, qui prend le relais en fait 23h30 sur 24, hein, faut être honnête. La demi-heure qu'on se donne, c'est quand c'est que du plaisir pour la glisse à la barre. Mais donc, c'est vraiment l'élément indispensable. Donc là, on se rend compte de la rareté et de l'importance de l'énergie. Et effectivement, à terre, tu l'évoquais, On oublie ça. On appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, c'est magnifique. On appuie sur l'interrupteur de la machine à café, on a le café chaud. Et entre parenthèses, on sait que c'est l'impact le plus important, c'est d'un café, d'une tasse de café, c'est la machine à café qui chauffe. Ah ouais. Et c'est pas le café et sa production. Voilà. Fin de parenthèse. et donc effectivement, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Je pense qu'à terre, on a l'énergie qui arrive trop facilement dans nos pays, dans nos civilisations. Elle est peut-être trop peu chère aussi. En tout cas, il n'y a pas la notion de rareté. Et on sait quand on sait la difficulté à la produire. On parle du nucléaire, de l'éolien terrestre, l'éolien marin, etc. Et c'est vraiment une ressource qui doit être aujourd'hui, qui est primordiale d'abord et qui doit être vraiment contrôlée par nous-mêmes, par chaque individu. Ouais,
mais je pense que c'est aussi pas évident, tu vois, en tant que consommateur, parce qu'en fait, on n'a pas de... Tu vois, les objets qu'on utilise n'ont pas un instrument de mesure pour nous dire qu'on utilise tant d'énergie. Tu vois ce que je... Enfin, peut-être que si, en fait, on voyait ce qu'on consomme, hein, avec un signe, avec un truc, j'en sais rien.
Ça serait...
On aurait plus conscience, peut-être.
Exactement, il faudrait un ampère-mètre sur chaque élément. Voilà, et on sait que, tac, on utilise tant d'ampères quand on va allumer la machine à café.
Ouais,
et là, c'est pas rien.
Avis aux designers, du coup, de machines Exactement. À café et autres matériels électroniques, nous aider à comprendre et à mesurer ce qu'on consomme, en fait.
Exactement, et on fait toujours plus attention aux objets, aux actions, quand on les comprend, parce qu'effectivement, c'est très abstrait.
Ouais. Et alors, pour en revenir, donc du coup, le sourcing de tout ce que tu vas utiliser, mais donc en fait, ce bateau, ça fait combien de temps du coup que tu navigues avec
Ça fait 2 ans et demi.
Ok. Et donc aujourd'hui aussi, tu te demandes, les pièces, une fois que tu les as utilisées au maximum, du maximum, du maximum, ok, en fait, qui est-ce qui pourrait en avoir besoin? À quoi ça pourrait servir pour aller, pour que ça finisse pas ni à l'enfouissement, ni que ça finisse en déchets?
L'objectif du projet, c'était gérer la ressource, mais gérer les déchets aussi. Ouais. Donc moi, j'ai récupéré un bateau, il y avait beaucoup de déchets avec, il y avait des voiles que je ne pouvais plus utiliser, on parlait du trampoline tout à l'heure, se faire en filet de pêche, donc ça, il a été recyclé, c'est un matériau qui se recycle très bien, le polypropylène, mais j'ai d'autres éléments. Alors si on prend par exemple les boots, qui sont les ficelles, je le rappelle, ça c'est du cordage qui est de très très, qui est très haut niveau, qui permet de... qui a une résistance très importante. Donc, il peut être utilisé pour plein de choses au niveau domestique, les cabanes d'enfants, dans un atelier, dans plein de choses. Donc, j'en ai donné à des amis qui l'utilisent chez eux, dans leur garage, comme on veut. Après, il y a certaines fibres qui sont très spécifiques, un matériau qu'on appelle le PBO, l'aramide à la source de sein, qui peuvent se recycler. Et j'ai trouvé depuis quelques mois un industriel aux Pays-Bas qui me recycle cette fibre. Et donc, dans les éléments importants du bateau, il y a l'été, donc c'est les câbles qui tiennent le mât du pont du bateau en tête de mât.
Okay.
Donc là, ces étés qu'on a en fibre PBO aujourd'hui, ils sont recyclables. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Il en fait quoi là?
Ah, il en fait des gants résistants aux ultra hautes températures, à 450 degrés.
Okay.
Donc c'est génial. Donc ça veut dire que chez soi, on peut en avoir quand on manipule le feu, le barbecue, j'en sais rien, mais il en vend dans d'autres industries. Et ce qui est super, c'est qu'encore une fois, c'est un industriel qui n'a rien à voir avec le nautisme, qui est venu me voir des Pays-Bas, qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau et qui est monté à bord. Il dit voilà ta ressource, elle est là et c'est mon déchet, donc je te donne mes câbles. Donc ça, c'est super.
Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est ton déchet à toi et lui, quand son gant il sort en bout de chaîne, c'est un truc qui est neuf, quoi.
Exactement, voilà, et il fait son business avec ça. Et donc ça, c'est top. Là, on est vraiment dans l'exemple pur de l'économie circulaire. Et après, il y a d'autres éléments plus complexes, type les voiles. On en parlait tout à l'heure. Alors là, j'ai une voile qui est arrivée en fin de vie récemment, qui s'est déchirée à un endroit et qui n'est pas réparable. Et avec un ami artiste, il va faire une fraise dessus, il va faire une œuvre dessus. Okay, donc bien. C'est une voile qui fait quand même 70 mètres carrés, donc on la met pas forcément dans tous les salons. Elle est triangulaire, tout ça. Et on va l'exposer probablement à un événement auquel je participe en 2021. Et après, peut-être que ça intéressera quelqu'un pour un hangar, un entrepôt, quelque chose. Donc on verra. Voilà, donc il y a un côté artistique assez sympa.
Clair.
On verra ce que ça donne, mais après, on peut imaginer que ça devienne une bâche, que ça devienne des sacs. J'ai un projet aussi sur une autre voile pour que ça devienne, non pas des, il y aura des sacs qui vont être faits, et sur encore une troisième voile, il y aura des assises d'un fauteuil d'un designer, justement, on en vient, ouais. fait dans l'ancien Genaker que j'ai explosé pendant la route du Rhum et qui était l'ancien Genaker d'Hélène MacArthur. Donc, il date de 2003.
C'est quoi un Genaker ?
Un Genaker, pardon, c'est comme un SPI. En fait, c'est cette très grande voile qui fait 250 mètres carrés et qui propulse le bateau quand il est plutôt au vent arrière, on va dire.
Voilà. D'accord. Okay.
Donc, un beau projet design en perspective.
Bah ouais, mais en fait, c'est ça. C'est que, est-ce que pour toi, l'économie circulaire, c'est pas aussi un peu l'économie de la créativité ? En fait, l'imaginaire et toutes les idées qu'on peut avoir, il y a un champ de possibles incroyable, quoi.
Exactement. C'est comme je dis, l'économie de la communication, de l'échange. Parce que comme je donnais l'exemple avant de cet industriel aux Pays-Bas, eh ben voilà, si on ne va pas chercher, communiquer avec d'autres, parler de nos besoins, etc., de dire ce qu'on a comme ressources potentielles, on ne trouvera pas les solutions tout seul dans son coin. Donc il faut absolument échanger, participer à des... Voilà, à des réseaux et s'intéresser à ce qui se fait. Voilà, si on prend le sujet matériaux, aller chercher, si on prend voilà, la fibre aramide, alors dans quelle industrie elle est utilisée, etc. Donc il faut vraiment voilà, faire preuve de créativité, d'échange. C'est l'économie de l'intelligence collective. Ça, ouais, c'est essentiel.
Mais en fait, aujourd'hui, du coup, c'est des acteurs comme toi. Enfin, en fait, nous aussi, on pourrait très bien le faire avec voilà, tout ce qui, aujourd'hui, ne nous sert plus, etc. Mais est-ce que aussi, on pourrait se dire que peut-être que pour les objets qui sont mis, enfin, auxquels on donne naissance à partir d'aujourd'hui, ce process-là est pensé peut-être en amont ou peut-être davantage
Ce que tu dis, c'est... En fait, ça s'appelle le design thinking. C'est la base de l'économie circulaire. Et en fait, et on vient à ce sujet qui est vraiment mon cheval de bataille, c'est qu'on appelle la REP, et la responsabilité élargie du producteur. Okay. Et en fait, tout produit aujourd'hui mis sur un marché doit être pensé, doit être d'abord la responsabilité de celui qui le produit, mais donc il doit être pensé par le designer sur sa vie, sa seconde vie, son recyclage au bout de la chaîne. Et c'est ça qui est essentiel. Donc aujourd'hui, on a toutes ces infos, on est en 2020, on a toutes les infos sur les sujets de climat, de rareté de la ressource et autres. Et j'estime qu'on ne peut plus être totalement déconnecté de cette réalité climatique un peu difficile, hein, quand même, qui nous pend au nez pour l'avenir. Et donc, il faut agir à la source. Et agir à la source, c'est se dire, OK, quand je mets cette lampe sur le marché, elle va être composée de ça, 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 tel matériau et tel élément. Ça doit être recyclable ou ça peut devenir... voilà, il peut y avoir une deuxième fonction, pourquoi pas. Ouais, mais en tout cas, ça doit être pensé à l'origine.
Ouais. Oui, quitte à ce qu'en fait, on nous dise... à la fin, potentiellement, on sait que, enfin, nous fournir, je sais pas, avec le manuel d'utilisation ou des trucs comme ça, une liste d'endroits où on pourrait les ramener, ou une liste d'entreprises qui potentiellement pourraient être intéressées pour, enfin, en fait, on sait pas, mais c'est un peu infini, quoi, le truc.
Exactement. Ouais, exactement. C'est pour ça, il faut communiquer là-dessus, et la marque, le producteur doit effectivement donner de l'information, et s'il a cette responsabilité, il doit même le gérer pour le conducteur. Il doit pouvoir dire, vous allez rapporter votre objet ici, à cet endroit, et nous, on va le gérer. Et c'est ça ce qui va se passer à l'avenir. Et si on ne passe pas par là, eh ben, tout continue à partir dans la nature. Et on essaye de trouver, comme moi aujourd'hui avec mon bateau, des solutions faites de brick and broc, j'allais dire, mais en tout cas pas organisées. Mmh. Voilà. Et donc, on a déjà tout cet amont de déchets qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut se dire, maintenant, ce qui va être produit ne sera plus un déchet qui va partir à la nature, mais va être géré.
Ouais, va être géré. Et donc, du coup, les producteurs, ils vont chercher des filières et ils vont peut-être, du coup, des choses qui vont se construire comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Enfin, c'est... Oui, mais il y a certains trucs qui n'existent pas, on ne sait pas, on machin. Et parce que comme il n'y a pas beaucoup peut-être de volume, ou... enfin, c'est peut-être aussi une question comme ça.
Oui, il y a ça. Exactement. J'en parlais encore avec une boîte qui fait de l'allocation financière il y a deux jours. Eh bien, ils essayent de trouver des débouchés, ils doivent, hein, ils vont être obligés par le législateur aussi, trouver des débouchés de leur matériel informatique, par exemple. Alors, ils en envoient dans d'autres pays qui ont besoin d'informatique un peu dégradée, mais qui fonctionne. Évidemment, ça se passe souvent en Afrique, hein, ou dans des pays en voie de développement. Mais c'est pas tout. Ça, c'est un petit peu, c'est une étape. C'est pas ça, la fin de vie. Et aujourd'hui, on sait que la plus grande décharge du monde de smartphones, elle a lieu au Ghana, quoi. Et au Ghana, c'est dramatique parce que il y a des enfants, des familles entières qui vivent pour aller chercher des déchets électroniques Et c'est pas ça le recyclage. Je veux dire, c'est pas ça la gérer la fin de vie d'un homme. C'est pas juste s'en débarrasser, de plus l'avoir sous les yeux et se dire bon, ça se passe en Afrique, on est tranquille. Quoi. Ouais,
non, c'est clair. Alors, pour revenir quand même sur la route du Rhum que tu as fait, donc c'était en novembre 2018. Donc, en fait, là, tu montes l'exemple. Est-ce qu'on avait déjà vu un bateau comme ça en compétition?
Alors,
tu vois, parce que
non, pas à ce niveau-là. En fait, il y a des anciens bateaux qui participent, qui sont effectivement, il y a des projets. On va refaire naviguer le bateau, mais pas avec cette dimension-là, ouais. Cette conscience-là, qui est faite pour alerter. Moi, je suis là pour alerter. Je suis pas un lanceur d'alerte, mais il y a un message qui passe.
Bien sûr. Et puis, en fait, toutes ces compétitions-là sont ultra médiatisées, donc. C'est aussi, en fait, toi, non seulement tu portes ce message, mais tu le fais vraiment, en fait. Donc, du coup, c'est...
Ouais, c'est ça qui m'importe. C'est effectivement se dire, voilà, moi, j'y vais avec mon projet, mon petit projet. J'ai ma vision. Je veux pas l'imposer à tout le monde. C'est pas ça. Je donne pas de leçons. Mais je dis qu'il faut changer. Donc, chacun le fait comme il veut, à son niveau. Mais il y a quand même, on peut pas demander aux industriels dits polluants et autres de faire des énormes efforts quand nous, acteurs de la société civile, on va rien faire. Les sportifs, les artistes, les designers, les qui on veut. On doit tous s'engager. Donc moi, ça, j'estime que le message, il est encore plus fort s'il y a l'engagement derrière. C'est pas uniquement de dire qu'il faut protéger les océans, parce que la ressource océan est essentielle et elle produit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire sur Terre, hein, quand même. Oui, donc c'est vraiment une ressource à protéger, à chérir. Mais si on agit en conséquence, eh ben je trouve que ça a plus de sens. Mais en tout cas, moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça.
Ouais, non, mais c'est évident. Et puis en fait, je pense que t'inspire aussi plein de gens, enfin dans plein de domaines, parce que quand on voit comme ça un projet, enfin on peut pas ne pas se poser la question, mais moi à mon niveau aussi, comment je peux faire, ou comme, enfin forcément ça nous touche en fait, tu vois, c'est...
Ben, j'espère, ça ferait plaisir. Non mais c'est vraiment fait pour. Il y a le côté individuel. Bon, moi, nous on est c'est une toute petite entreprise. Je suis un artisan de la mer, donc finalement je parle. C'est pas une grosse machine, donc grosse structure. Donc effectivement, les gens qui sont venus, il y a quasiment 2 millions de personnes qui passent à Saint-Malo, sur le village de la route du Rhum. Ouais, donc ils sont impressionnés par le bateau, mais c'est l'histoire aussi. C'est ça, Use It Again. C'est quoi derrière? Donc il y avait écrit Reduce, Reuse, Recycle. Donc voilà, ça les interpelle et ça sert à ça. Donc, et après, il y a aussi les industriels, les entreprises. Et aujourd'hui, j'espère que je donne du grain à moudre dans leur réflexion, leur stratégie, se dire qu'il faut peut-être faire un peu différemment. Voilà.
Et après, pour que tu nous racontes un peu concrètement, tu vois, la route du Rhum, en gros, ça dure combien de temps? Enfin, tu vois, c'est une aventure de plusieurs semaines, en fait.
Bah, ouais, alors normalement, elle doit être la moins longue possible. Hein, c'est le principe de la course, parce que c'est quand même un projet de performance. Donc, j'avais, en théorie, je visais 2 semaines, 2 petites semaines. Et j'ai eu mon lot de casse aussi, parce qu'on a eu des conditions assez démentielles. Les premiers jours d'entrée de jeu dans le golfe de Gascogne. Et j'ai eu une première casse qui m'a fait m'arrêter à La Corogne.
Parce qu'en fait, on part de Saint-Malo.
Donc on part de Saint-Malo et on va à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
D'accord. Okay.
Donc c'est c'est la plus mythique des transats, qui a 40 ans. Donc c'était la 11e édition, gagnée par des Bourgnon, des Artaud, Florence Artaud. Des gens mythiques comme ça, qui m'ont inspiré. Donc elle a lieu tous les 4 ans et on part effectivement au mois de novembre en Bretagne. C'est pas la période la mieux, ouais, effectivement, parce que les dépressions arrivent de l'Atlantique et on s'est fait copieusement recevoir par l'océan qui nous a bien accueillis et ça a démarré très fort. Donc j'ai eu de la casse, un peu due à des petites erreurs de préparation, mais j'avais peu de temps devant moi, pas beaucoup de moyens à ma décharge. Mais donc j'ai dû m'arrêter une première fois. J'ai pris mon premier plat au bout de 3 jours et demi quand j'ai fait ce pit stop à La Corogne de quelques heures, parce que j'ai été très malade avant. Ah oui. Et puis après, je suis reparti. J'étais en 3e position de ma classe sur 6. Il y en avait 2, un bateau qui avait chaviré, 2 qui étaient cassés. Je suis reparti en 3e position. Et là, j'ai eu encore une autre casse assez complexe qui a failli dans laquelle j'ai failli perdre mon mât. Donc c'est un peu ennuyeux, mais effectivement j'ai sauvé ça. Je suis passé in extremis à côté de la catastrophe et j'ai dû réparer pendant un bon moment à bord, faire intervenir à distance l'architecte du bateau, l'ingénieur structure pour calculer les forces sur les étés, j'en parlais tout à l'heure, les câbles qui tiennent le mât. Et bon, voilà, donc j'ai eu mon lot de péripéties et j'ai mis donc une semaine de plus, soit 21 jours, 3 semaines exactement. Donc c'était un peu long, mais en même temps, c'était un beau voyage. Et comme on dit, C'est pas uniquement le but, c'est le voyage. Et j'ai été servi parce que ce bateau est absolument magique. Il s'est comporté admirablement bien dans la mer extrêmement formée. Il faut savoir que j'avais des vagues qui faisaient à peu près 8-9 mètres. Donc, ça fait 3 étages hein, pour un immeuble en ville. Donc, c'est pas rien. Et ça a été les montagnes russes. Et après, voilà, mais le bateau, il a tenu, quoi. Ouais. Je disais, c'est...
Et toi, tu retiens quoi, tu vois, de cette aventure incroyable, enfin, au-delà du défi sportif, etc., parce que c'est un truc...
Effectivement, enfin, ouais, c'était d'abord ma première transat en solitaire. Donc, les gens vont se dire, il est malade de partir sur un bateau comme ça pour sa première transat. Mais en fait, j'ai quand même beaucoup navigué sur ces bateaux en équipage. Et finalement, et je suis assez à l'aise en général en solitaire. Donc, voilà. Alors, sur ce bateau-là, qui est un trimaran, il y a le risque de chavirage, puisqu'on n'a pas de quilles qui nous tiennent vers le bas. Et donc, ça, c'est quand même une petite épée Damoclès qu'on a en permanence. Il faut le savoir. Mais c'est pas le bateau le plus extrême non plus. Donc, c'est un bateau très sain, comme je disais au début. Donc, c'est pour ça que j'ai traversé ces fameuses tempêtes. Et donc, j'en retiens que, voilà, j'avais ce côté assez serein à bord. On était quand même dans la performance, un bateau qui va vite, hein, nuit et jour, il ne s'agit pas de s'arrêter pour dormir.
Ouais, c'est ça, c'est parce que tu fais des micro-sommeils.
Ouais, exactement.
C'est tout un truc.
Je fais des micro-sommeils, donc ça peut passer de 2-3 minutes où je vais chercher de la phase d'endormissement simplement à 10 minutes, 20 minutes, voire 3 quarts d'heure. Et dans 3 quarts d'heure, j'ai à peu près un cycle de sommeil complet qui est condensé. Comme on est en déficit de sommeil, en fait.
Mais du coup, t'es coaché. Enfin, avant, il y a une.
Ouais, en fait, ça, je me connais assez bien depuis longtemps. Et j'avais travaillé un peu tout ça. Donc, je sais où aller chercher mon sommeil. Et souvent, je me réveille avant que l'alarme. J'ai une énorme alarme à bord. Je vous la ferai peut-être écouter. Mais c'est assez. Bon, c'est un gros klaxon de camion, hein, en gros. Mais souvent, je me réveille avant. Voilà. Et je suis toujours, en fait, en alerte avec les bruits du bateau. Parce qu'il y a des bruits continus. Des bruits de. De grincement, de tout ça. Et dès qu'il y a un bruit suspect, en fait, ça me réveille. Ouais. Voilà, donc.
Et donc, t'as beaucoup de taf et machin, parce que. Ouais, mais en même temps, t'as aussi quand même un peu le temps de penser à des trucs, parce que.
Ouais, voilà. ouais, surtout après avoir cassé, j'ai eu du temps, parce que je pouvais pas envoyer toute la surface de voile nécessaire pour être au maximum du potentiel du bateau. Donc, ça a été plus long que prévu, comme on a dit, et effectivement, il y a du temps pour cogiter, réfléchir sur soi. Et comme je disais, j'ai trouvé qu'il était Romain Pilliard à la fin de cette transat. Mais c'est effectivement, c'est magique. D'abord, on se rend compte de la chance qu'on a parce qu'on est peu sur Terre pour faire des choses comme ça. C'est d'abord une chance inouïe de traverser un océan seul sur un tel bateau, d'observer ses levées de soleil, ses couchers de soleil, ses les grains, la nuit, le bateau qui file, le sillage du bateau en pleine nuit, voilà, qui file à pleine vitesse, c'est quand même quelque chose de magique. Et là, on est c'est hyper égoïste, on est tout seul à en profiter. On a envie de partager ça par des photos, des vidéos, des petites choses qu'on envoie à terre, mais c'est dur de retranscrire, en fait. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, on passe le fait de puiser au niveau physique, dans nos réserves, de manquer de sommeil. On passe quand même par des hauts, des bas émotionnels très forts. Donc, tout ça est exacerbé. Et c'est quand même magnifique de pouvoir profiter de cet océan qui est tantôt calme, tantôt déchaîné. Et il faut faire avec. Donc voilà, donc j'ai clairement adoré. Donc je serai sur d'autres courses, parce que là on a été frustrés cette année comme beaucoup de gens dans leur job. On a été frustrés, on n'a pas eu notre droit à nos courses transatlantiques. Mais il y en aura d'autres, il y en a une autre l'année prochaine en double, il y a la route du Rhum donc dans 2 ans exactement. Et il y aura peut-être d'autres aventures plus loin encore après.
Trop bien. Et alors, beaucoup t'en parlais là, l'océan magnifique, cette beauté, tout ça. Mais on parle aussi beaucoup de la pollution des océans. Et alors, il faut continuer à sensibiliser parce qu'en fait, les océans jouent un rôle fondamental dans le maintien juste de la vue sur Terre, en fait. Et l'état des océans est quand même préoccupant, très préoccupant, parce qu'il y a beaucoup de biodiversité qui est en train d'être un peu anéantie. Ouais. Un peu, voilà. Est-ce que t'as croisé des choses? Est-ce que t'as vu? Enfin, c'est quoi ton témoignage de? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Sur cette course-là, j'ai tapé 2 fois des ovnis, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Ovni, c'est l'objet flottant non identifié. Okay. On l'appelle comme ça dans le jargon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, il faut avoir en tête que la pollution de l'océan, elle vient de l'homme, elle vient de la Terre. Donc déjà. Ça pose les bases. Quand on disait qu'il fallait faire attention à la ressource, à notre vie quotidienne, voilà, la conséquence, c'est qu'effectivement, le mégot jeté en ville, il peut finir dans l'océan. Donc déjà. Ensuite, donc moi, en ce qui me concerne, j'ai une première fois été ralenti c'était pas grand chose. Je sais pas ce que c'était un filet de pêche. Voilà, il y a beaucoup de, comment on appelle, les ghost nets, les filets fantômes dans les océans. C'est les pêcheurs qui abandonnent leurs filets pour X raisons, qui en tout cas ne prennent pas soin de les garder ou de les récupérer.
Les récupérer pour les gens.
Voilà. Et la deuxième fois que j'ai tapé, ça a été plus dramatique puisque j'ai sectionné un safran. Donc voilà, un safran, un gouvernail. Hein, j'en ai trois à bord. J'en ai sectionné un. C'était 4 jours avant l'arrivée. Et là, je ne sais pas ce que j'ai tapé. Peut-être un container. Voilà, mais heureusement, mon safran a fleuré l'eau. Ce n'était pas le safran du flotteur qui était complètement immergé. Et donc, ça a sectionné que la moitié. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer de naviguer. Mais c'est flippant parce que c'était en pleine nuit. Tout d'un coup, voilà, j'étais à l'intérieur, sur ma table à cartes. Et tout d'un coup, on entend bam. Voilà, et là, on se dit... Là, on a un quart de seconde, on lève la tête. Est-ce que c'est le mât? Déjà, ce fameux mât. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une écoute qui a en tension, qui a cassé? Et en fait, je m'étais rendu compte que ça venait du flotteur et j'ai pris mon projecteur et j'ai effectivement éclairé le safran tout de suite en sortant. Mais bon, on va vite, quoi. Hein, donc, tout ça. Et j'ai éclairé mon sillage, je ne voyais rien. Le safran était sectionné j'espérais qu'il n'y avait pas de voie d'eau en fait dans le flotteur. C'est ça. Et heureusement, non. Donc, ça peut vite être la catastrophe. Mais donc, j'ai fini avec un moignon de flotteur. Ce n'était pas dramatique, mais j'espère d'abord ne pas avoir touché de cétacés, parce que ça arrive. Hein. Il y a de plus en plus, nos bateaux allant très vite. On peut taper des cétacés, donc ça, ce n'est pas top. Moi, mon bateau ne va pas trop vite encore pour ça. Mais mes petits copains commencent à avoir des systèmes d'alerte. Ils essayent de mettre au point des systèmes d'alerte s'ils sont des cétacés. Mmh. Et nos bateaux vont trop vite pour qu'ils aient le temps de réagir, en fait.
Ah ouais.
Ouais, donc ça, c'est un peu dramatique. Là encore, une prise de conscience s'impose également à ce niveau-là. Parce qu'aller taper une baleine dans son élément, et ben, ça se fait pas. Mais moi, en l'occurrence, je pense que c'était pas ça. Donc ça, c'est encore un sujet. Et puis sinon, donc voilà, ce qui m'est arrivé sur la route du Rhum, on était à l'époque, il faut savoir qu'il y avait des sargasses, une énorme pollution de sargasses, d'algues qui se forment dans l'Atlantique et qui arrivent sur l'arc antillais, qui arrivent d'Afrique, en fait, dû à la pollution en Afrique. Donc, encore une conséquence de l'homme sur le milieu naturel et
donc
l'océan.
Ça, tu l'as vu, quoi.
Alors, nous, j'en ai pas, pour être honnête, j'en ai pas vu parce qu'elles étaient dans le sud de la Guadeloupe où on n'allait pas parce qu'on arrivait par le nord. Ouais. Mais il faut savoir que toute l'industrie, toutes les plages étaient fermées, l'industrie touristique, et c'était dramatique à ce moment-là parce que les hôtels pouvaient pas recevoir de touristes et autres. Mais surtout, voilà, la conséquence directe, c'est cette pollution sur l'océan.
Et puis il y a aussi un peu tout, enfin une pollution qui est aussi aux particules de enfin ces micro particules de plastique, tu vois, qui est aussi un peu
invisible. Quasiment, exactement. Il y a cette pollution effectivement qu'on traverse. Alors il y a certains endroits dans le monde, elle est visible. Ce qu'on appelle les gyres, donc il y a ce fameux ce continent de plastique dans le Pacifique. Donc là, c'est dû au courant océanique qui ramène tous les déchets. Hein. Okay. Voilà, c'est l'effet tourbillon dans votre lavabo. Hein. C'est le même principe à l'échelle de l'océan. Bon, donc il y a des endroits où effectivement la pollution est visible, mais partout elle est invisible. C'est un très gros sujet. La Méditerranée est en gros danger, et à certains endroits, même dans la mer Tyrrhénéenne, c'est carrément devenu une couche sédimentaire, donc voilà, de plastique. Ça veut dire que ça a remplacé le fond, les sédiments à l'origine, et là il y a une couche sédimentaire faite uniquement de plastique. Donc c'est quand même, on a un point assez dramatique à certains endroits. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a plein de bonnes nouvelles. Il y a des endroits, les coraux repoussent.
Ouais.
Voilà, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Il y a beaucoup d'initiatives pour faire en sorte qu'effectivement que l'océan digère ces plastiques. Mais la base, c'est qu'il faut arrêter ce tout plastique. C'est quand même la base de l'homme. Il faut qu'on arrête de consommer du plastique. On a beau imaginer plein de choses, de recyclage, de tri, de tout ça. OK, c'est bien, mais ça, c'est des pansements. C'est-à-dire, la base, c'est arrêter d'utiliser ce plastique.
Ils en ont pensé quoi, tu vois, les acteurs de ton domaine, les autres skippers, les gens qui organisent ces compétitions? Parce qu'en fait, le truc, c'est que la compétition, par essence, c'est aller plus vite. Tout le monde est engrainé dans ce truc de plus, tu vois.
Ouais, alors, moi, je lance ce message.
En fait, on pourrait, tu vois, pardon, je te coupe, mais se dire qu'en fait, potentiellement, il y a des coefficients où, en fait, en gros, on essaie de faire en sorte que dans la grille de qui est le vainqueur d'une course, il y ait aussi des points qui soient attribués à un engagement et au fait que tout ça ait un peu plus de sens, quoi.
Effectivement, c'est une responsabilité collective, comme on disait. Donc, il y a celui qui navigue, il y a celui qui organise la course. Et en fait, on devrait faire comme dans la société en général. Je veux dire, aujourd'hui, les compagnies d'assurance, les banques vont être impactées sur leurs résultats par rapport à leurs efforts qu'ils font de façon globale, on va dire, sur l'environnement. Mais nous, ça devrait être pareil, finalement. Et dans toutes les activités, on devrait avoir un impact carbone, émissions carbone, faire un bilan carbone peut-être de chaque équipe. Et là, ça apporterait plus de justesse par rapport à ce défi du climat qu'on a tous.
C'est clair. C'est clair. Donc, appel lancé.
Ouais, on verra. Ça va prendre du temps parce que tout le monde, évidemment, n'est pas d'accord. Et celui qui a des moyens, un gros sponsor et qui n'est pas très sensible à ça, eh ben, il a démarré la course au large pour aller toujours plus vite, changer de voile dès qu'il y a un petit truc qui fait qu'elle n'est pas aussi performante qu'elle devrait l'être et autres. Donc, c'est très compliqué. Ouais, c'est toujours un peu pareil. Hein. C'est toujours un peu les plus riches qui consomment le plus et qui sont le plus impactants. Faut quand même l'avoir en tête.
Mais après, c'est aussi peut-être, tu vois, les sponsors et tous ces gens-là qui devraient dire oui, mais en fait, on s'engage que s'il y a telle et telle contrepartie.
Exactement. Et on pourrait mettre des moyens financiers, humains, au service justement de la limitation de l'impact. Et ça serait quelque chose de très profitable pour tout le monde, bien évidemment. Et voilà, encore une fois, la conscience doit être collective. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, tu sais que ce podcast s'appelle Où est le beau et que j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous dire ce que représente le beau pour eux. Alors, Romain, est-ce que tu peux nous donner ta définition du beau?
Alors, le beau est, je pense clairement très subjectif. Voilà, comme je dis souvent, chacun son sale goût. Voilà, pour moi, le beau, c'est quelque chose, c'est un acte, ça peut être un objet, mais c'est aussi un acte, c'est mon bateau sur l'océan, c'est l'harmonie. Voilà, c'est quelque chose qui se passe bien. Ça peut être une belle manœuvre de bateau. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle manœuvre de bateau quand tout se passe bien. Il n'y a pas d'accro, tout va vite dans un timing. Il faut savoir que voilà, c'est une manœuvre de bateau. C'est long sur mon bateau, mais tu verras, je te montrerai là sur le bateau juste dehors. C'est décomposé comme un danseur fait son.
C'est exactement.
C'est un geste très précis. Et donc voilà, ça peut être une belle manœuvre. C'est un beau moment quand effectivement il y a beaucoup d'harmonie et peu d'impact sur l'environnement.
Ouais. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à tous ceux qui nous écoutent, qui seraient créatifs, designers, ingénieurs, architectes et qui donnent naissance aujourd'hui à de nouveaux objets, tu vois?
Je crois que clairement le message, c'est penser à ce que va devenir votre objet. Voilà. N'envoyez pas, n'imaginez pas, ne créez pas un objet, une décoration, sans savoir ce que ça va devenir. Je pense qu'on n'a plus le droit de faire ça. Charge à vous de responsabiliser le donneur d'ordre, le client, etc. Mais dites-vous que ce que vous allez créer va rester. Et s'il doit rester, que ce soit le plus durable possible, et qu'il soit peut-être avec des pièces détachées, interchangeables, recyclables, dans des matériaux qu'on sait recyclables véritablement aujourd'hui. Donc, c'est vraiment voir à long terme et c'est ce qui fera le plus de bien à notre planète.
Mmh. Un endroit, une adresse que tu aimerais nous partager, un lieu où tu aimes bien aller, tu te sens bien?
Alors, j'aime beaucoup la convivialité autour de notre monde maritime. Donc, en clair, c'est le bistrot. Alors, je pourrais dire le bar, le Ticorne à Ouessant.
Ok, d'accord.
Cette île est magique, je l'adore. J'y vais régulièrement depuis longtemps, une ou deux fois par an, et ça pourrait être cet endroit-là.
Ok. Romain, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais dans ce podcast?
Eh bien, je pense que l'artiste photographe Julien Mignot apprécierait d'échanger avec toi, Hélène.
Ok, écoute, avec plaisir. Et alors, comment on peut t'aider aujourd'hui dans toute cette aventure Use It Again?
D'abord, j'espère avoir fait envie un petit peu
Sur ton compte Instagram qui va être dans les notes de l'épisode.
Exactement, voilà. Donc, on poste beaucoup de photos, de vidéos, d'avancées du projet sur tous les sujets qu'on a évoqués. Donc, sur l'Insta, sur le compte Facebook, LinkedIn et autres. Ouais. Nous, on est organisé avec Use It Again à travers un fonds de dotation, donc qui est éligible au mécénat. Donc, s'il y a des sociétés, des gens qui veulent nous aider, qui veulent apporter la pierre à l'édifice, qui ont potentiellement des moyens financiers, etc. C'est évidemment le nerf de la guerre, parce que c'est faire marcher des machines comme mon trimaran, ça nécessite des moyens, parce qu'il y a plein d'artisans voilà, qui viennent sur ce bateau intervenir sur les voiles, les écoutes dont on a parlé, les winches, tous les éléments. Ah ouais. Et ça, je peux pas faire ça tout seul.
Et puis aussi, là, le fait qu'il soit dans le... Enfin, tout en fait. Tout.
Exactement. Ouais, c'est comme une vieille, voilà, une voiture de course, j'allais dire. Il y a plein de gens qui doivent s'en occuper.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Romain.
Merci beaucoup, Hélène.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendi pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.ouestlebeau.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes, aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.